Sophie, il est 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
L'actualité africaine avec Vincent Dublange.
Oui, et à la une, le Sénégal, Marion, le Sénégal, où cette loi d'interprétation de l'amnistie dont on parle depuis maintenant plusieurs semaines a été votée hier. RFI a suivi la longue journée au Parlement, reportage dans un instant. Mise en débat aussi, qu'en pensez-vous dans Appel sur l'actualité, 8h10, heure de Dakar et en temps universel. Des réactions dans ce journal de formation politique en Guinée après cette annonce dont on parlait hier matin, la date du référendum constitutionnel, ce sera le 21 septembre. On va évoquer cette audience en référé hier, intentée par une militante du PDCI contre Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. Elle considère cette militante que le président du PDCI a renoncé à sa nationalité ivoirienne en acceptant la nationalité française, même si depuis il y a renoncé. Notre dossier au Bénin sur l'humour, grand rendez-vous du rire qui s'ouvre aujourd'hui à Cotonou pour 4 jours. Mon premier Montreux d'Afrique en jeu, une place au célèbre festival du rire en Suisse.
Au Sénégal, les débats ont duré une bonne partie de la journée. Ils ont été, c'est le moins qu'on puisse dire, tendus.
Oui, et c'était prévu, c'était prévisible, Marion, entre d'un côté la forte majorité au pouvoir depuis un an maintenant et de l'autre l'opposition, notamment issue de l'ancienne majorité sous Macky Sall, l'ancien président qui avait fait voter il y a un peu plus d'un an cette loi d'amnistie pour l'ensemble des infractions commises lors des manifestations entre 2021 et 2024. Hier donc, l'Assemblée nationale sénégalaise examinait un projet de loi pour interpréter le texte, l'interpréter et le restreindre en réalité, c'est-à-dire en exclure les crimes, notamment. Retour sur ce marathon parlementaire avec Léa Lisa Vesterhoff.
Dans une ambiance électrique, pendant plus de 8 heures, des dizaines de députés du PASTEF se sont relayés à la tribune pour dire l'urgence de rendre justice aux trop nombreuses victimes des manifestations de l'opposition sous les 3 dernières années du régime de Macky Sall. Corriger cette loi d'amnistie afin de juger les auteurs d'assassinats, de meurtres et de tortures, c'était la meilleure option pour lutter contre l'impunité, selon le chef du groupe parlementaire du PASTEF, Aïb Dafé.
Que ça ne se reproduise plus, c'est en réalité ça qui se joue aujourd'hui. En tout cas, cette interprétation permet d'apporter la lumière sur des faits particulièrement grave, permet également de rendre justice à ces victimes parce qu'on parle de plus de 85 morts et le bilan n'est pas définitif parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête.
Des enquêtes qui vont pouvoir être ouvertes désormais, mais en face, les députés de l'opposition ont dénoncé un deux poids deux mesures car les auteurs des saccages et de pillages resteront couverts par l'amnistie. Pour le député de l'opposition, Tierno Alassane Sall, c'est une façon de protéger les militants du PASTEF et ses dirigeants.
Ce qui est inacceptable, c'est d'essayer justement au nom d'une graduation dans la douleur, de ne pas respecter la douleur et la souffrance des uns au prétexte qu'il ne s'agit pas de crimes de sang. Et qui veulent-ils couvrir? En réalité, ils veulent couvrir celui qui a appelé les gens à manifester.
À peine la nouvelle loi adoptée, le parti de l'ancien président, l'APR, s'est fendu d'un communiqué dénonçant une loi scélérate qui incrimine les forces de défense et de sécurité. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Et comme je vous le disais en titre, vous en débattez tout à l'heure dans Appel sur l'actualité. C'est dans approximativement 1h30 sur Radio France Internationale. L'actualité parlementaire au Togo, qui a désormais un président du Sénat, l'institution est créée par la réforme constitutionnelle décriée de l'an dernier. Barry Moussa Barké a été élu hier à l'unanimité. Il est conseiller spécial du président Faure depuis 2009. Il a été plusieurs fois ministre de son père aussi, Ignace Ingbé et Yadema.
Une réforme constitutionnelle en marche en Guinée.
Le référendum pour ou contre cette nouvelle loi fondamentale se tiendra le 21 septembre. On en parlait hier matin. Réaction politique, ce jeudi recueilli par Mouktarba.
C'est une annonce qui a du mal à convaincre. L'opposition est vent debout contre la durée de la transition et ne croit plus aux promesses du chef de l'État. Édouard Zotomouk Pogomou est le vice-président de l'ANAD.
Ça, c'est une énième tentative de faire de la diversion. Le référendum était supposé prendre place dans le premier trimestre de cette année. Il a fallu une pluie de critiques pour forcer un décret qui sort dans le premier jour du deuxième trimestre.
Le général Doumbouya avait annoncé que toutes les élections se tiendraient au cours de l'année 2025, mais Édouard Pogomou ne croit pas.
Parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour aller à toutes ces élections-là pour cette année. Un, on n'a pas de fichier électoral. À date, les experts qui doivent se prononcer sur la révision de cet avant-projet de constitution sont toujours en train de travailler. Alors, comment est-ce qu'on peut envisager de telles choses alors qu'il n'y a même pas de ressources?
Mais pour Diabaty Doré, le leader du RPR, le calendrier est tenable.
Je pense bien que oui, il faut se réjouir parce que c'est le début du retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire dans la normalité. Et à 5 mois de la date du 21 septembre, est-ce que cette date est tenable? Je dis oui, si la volonté est là, on peut aller au référendum. Mais est-ce que toutes les conditions se réunissent pour que les élections soient transparentes et crédibles?
Si des questions restent en suspens, le principal enjeu est de définir les critères d'éligibilité des candidats aux différents scrutins prévus avant la fin de l'année. Mokhtar Bakonakri, RFI.
Cette nuit, le président américain a présenté ce qu'il qualifie de déclaration d'indépendance économique.
Et plus concrètement, et comme annoncé, il s'agit de nouveaux droits de douane. Plus 10% au moins imposés à la quasi-totalité des pays du monde et des hausses supplémentaires attendues ensuite pour 57 pays, dont 20 africains. On parle là par exemple de 30% pour l'Algérie, 21% pour la Côte d'Ivoire, 14% de droits de douane pour le Nigeria. Certains produits miniers, pharmaceutiques notamment, ne sont pas concernés. On en parle bien sûr largement ce matin. Et notamment dans le prochain journal, on entendra comment on réagit du côté de Pékin, très impacté avec 54% de hausse en tout depuis le début de l'année. On vous a déjà concocté un résumé sur notre site RFI.fr ou sur l'appli RFI. Les trois États de l'Alliance des États du Sahel, eux, espèrent un partenariat renforcé encore plus avec la Russie. Les ministres des Affaires étrangères du Faso, du Mali et du Niger sont à Moscou sur invitation de leur homologue Sergueï Lavrov.
Au Burkina Faso, Human Rights Watch déplore l'amalgame entre journalistes et djihadistes.
Le service de sécurité burkinabé a publié mardi une liste 32 noms et portraits de personnes recherchées, je cite, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Dans l'avis de recherche figurent des djihadistes, mais aussi donc des journalistes ou des hommes politiques. Ilaria Allegrozzi est chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch.
Placer des journalistes, des activistes, des lanceurs d'alerte en exil sur une liste des terroristes est effectivement une tentative de les intimider. Cette liste, en fait, est l'énième, la dernière tentative de museler toute voix dissidente s'inscrit bien dans un climat de terreur instauré par la junte. Il s'agit des personnes qui ont été contraintes à quitter leur pays à cause de la répression qui sévit au Burkina, à cause de la restriction de plus en plus croissante des droits, des libertés fondamentales. Des individus aussi qui ont eu le courage, il faut le rappeler, de dénoncer les dérives de l'armée, les exactions commises par les soldats burkinabés dans le cadre des opérations de contre-terrorisme. En fait, on a l'impression que les autorités sont en train de tout faire pour faire oublier le massacre de Solenzo, l'attaque de Diapaga et détourner l'attention de l'opinion publique vers d'autres questions.
Propos recueillis par Wally Diallo.
2200 francs CFA, c'est le nouveau prix du kilo de cacao Borchan en Côte d'Ivoire.
Oui, et c'est le ministre ivoirien de l'Agriculture qui l'a annoncé hier. C'est 400 francs de plus par rapport à la campagne principale. La Côte d'Ivoire où le PDCI-RDA fait face à des remous politico-judiciaires. Hier, les avocats du parti étaient au tribunal des référés d'Abidjan. Une militante conteste la légitimité de Tidiane Thiam à la tête de la formation politique Bintadiane.
Il est midi, plusieurs dizaines de personnes marchent pacifiquement près du palais de justice. En tête de cortège, des députés du PDCI, écharpe orange, blanc, vert en bandoulière, tentent d'entrer dans le tribunal. Mais il se heurte à un cordon des forces de police. Simon Do dirige le groupe parlementaire du PDCI.
C'est un combat pour la démocratie. Nous ne pouvons pas accepter que des gens utilisent des artifices pour manipuler nos militants à des fins d'empêcher notre président d'accéder à la présidence de la République de Côte d'Ivoire.
Tout est parti d'une assignation devant la justice portée par Valérie Yapo, une militante du PDCI. Cette sympathisante remet notamment en question la légitimité de Tidiane Thiam à la tête du parti. Le président du PDCI a été élu après près de 96% lors d'un congrès en décembre 2023. Il a tout récemment renoncé à la nationalité française pour être éligible à la présidentielle d'octobre. Mais ses détracteurs estiment qu'il n'est plus ivoirien en vertu de l'article 48 du Code de la nationalité qui stipule qu'un ivoirien majeur perd la nationalité ivoirienne s'il acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Fin de citation. Après une audience à huis clos, Valérie Yapo n'a pas souhaité dévoiler le fond du dossier.
Ça s'est déroulé dans un climat simple, il n'y a pas d'animosité. La juge a simplement ramené l'affaire au 11 avril pour décision.
D'ici là, le PDCI maintient ses activités avec samedi l'organisation d'un bureau politique à Yamoussoukro. Bintadiane Abidjan, RFI.
Focus maintenant dans ce journal sur le Soudan et la ville d'El Obeid au Kordofan du nord, au sud-ouest de la capitale Khartoum. C'est l'un des verrous stratégiques et l'une des nouvelles lignes de front entre les FSR et l'armée régulière. Des combats ont eu lieu là-bas à El Obeid mardi, Ouda Ibrahim.
El Obeid, ville clé du Kordofan du nord dans le sud du pays. Encerclée par les forces de soutien rapide depuis le début de la guerre, en 2023, l'armée a pu briser son siège en février dernier. Depuis, elle est la cible des bombardements permanents des FSR. Ce mardi, tôt le matin, soutenue par des troupes qui se sont retirées de Khartoum, les FSR ont attaqué Al-Ubaïd. Mais elles ont été stoppées à l'ouest de la ville où elles ont subi de lourdes pertes selon l'armée. Par ailleurs, au Kordofan du Sud, les FSR ont attaqué lundi Khouredib, mais l'armée a annoncé ce mercredi qu'elle avait repris cette localité. Malgré cette série de pertes, le numéro 2 des FSR, Abderrahim Daglou, a menacé d'attaquer l'État du Nord du Soudan ainsi que l'État du Nil. Il a affirmé dans une vidéo où il apparaît entouré de ses hommes que 2000 véhicules se dirigeaient vers cet État. L'armée contrôle désormais la majorité du territoire soudanais et affirme que ses forces se préparent à la reprise du Darfour. Hormis la ville encerclée d'Al-Fasher, les 5 états du Darfour sont aux mains des FSR.
Ouda Ibrahim.
Notre dossier sur ce grand rendez-vous du rire qui s'ouvre à Cotonou ce jeudi.
Oui, mon premier Montreux d'Afrique, en référence bien sûr à Montreux, le festival suisse de l'humour. Nous sommes au stade des demi-finales à Cotonou, au Bénin. 20 sélectionnés sur 300 projets. Il y a eu un vrai engouement, Jean-Luc Aplogan.
Les organisateurs positionnent leur événement comme un tremplin pour les nouveaux talents du rire en Afrique. Nous sommes à la 5e édition avec un engouement croissant au fil des ans. Cotonou est la dernière étape avant la finale. Étienne Ventura, producteur et directeur du projet, résume le long processus de sélection.
On commence avec 360 candidats, puis 20 demi-finalistes, puis 8 finalistes, puis un ou une grand gagnant qui est invité à jouer à Montreux Comédie Festival, qui est le plus grand festival d'humour francophone aujourd'hui en Suisse. Et on est à la recherche de ceux et celles qui composent la relève de l'humour africain.
Ludivine Bonjou, directrice artistique du festival, a supervisé ce travail de tri. Elle apprécie les sketchs retenus à ce stade.
On a beaucoup de thématiques différentes et c'est surtout de nouvelles thématiques qui viennent. Il y a de très belles promesses dans les 10 pays.
Des Béninois composent le jury qui va élire les 4 finalistes. Les 20 demi-finalistes viennent d'une dizaine de pays africains. 2 Béninois sont dans la course. Les humoristes Sam Dubarsa et Corélias, très optimiste.
Le Bénin, on a déjà remporté 2 fois. Nous sommes le pays organisateur.
Vous pouvez pas perdre à la maison, c'est ça?
Nous sommes pas les guépards du Bénin. Voilà. Non, on s'est gaillé. Mais ne passez pas ça à l'antenne.
D'humoriste, il est pour l'équipe nationale de football du Bénin, jamais champion ou finaliste d'une compétition africaine. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Kadidiat Isotina, alias Kadi, a remporté elle la 3e édition du festival Mon Premier Montreux d'Afrique, c'était il y a 1 an et demi. C'est l'une des figures montantes de la scène humoristique au Bénin. Elle nous fait un peu l'état des lieux ce matin de l'humour et notamment des jeunes humoristes béninois.
Les humoristes béninois travaillent véritablement à nous produire de beaux spectacles, bien écrits, bien joués. On fait un peu de tout. Moi, je fais par exemple de la dérision, de l'autodérision. Je suis un peu trash. Il y a des humoristes qui ne parlent que d'eux. Ils se moquent d'eux-mêmes. Et il y a des humoristes qui parlent de ce qu'ils voient autour d'eux. Et ça me fait également rire. Du sarcasme, oui. De l'humour noir, oui. Et c'est ça qui fait la beauté de notre humour. Aujourd'hui, dans l'humour béninois, nous pouvons citer tellement d'humoristes et nous en sommes tellement fiers. Nous avons Kongi de Porte Novo, le sergent Kongi, Sam Dubarsa, Venance Jap, qui a été également lauréat avant que je ne sois lauréat du Montreux. Pacheco, la liste est longue. Il n'y a personne qui a encore fait une école d'humour au Bénin, à ce que je sache pour le moment. On ouvre des comédie clubs, dans des restaurants. On essaie de tester nos blagues sur le public qui vient manger. On a vraiment besoin d'un coup de pouce de l'État. On a beau avoir des concours qui viennent nous booster, nous motiver à travailler. Si après, on n'a pas une scène où continuer à travailler, ce serait peine perdue.
Un dossier à retrouver bien sûr sur notre site rfi.fr. Marion, je vous laisse la main, à tout à l'heure.
Merci, à tout à l'heure, Vincent Dublonge.